42 km 195. Ça, c'est la longueur du marathon. Est-ce que vous connaissez l'événement qui est à l'origine ?
C'est un messager qui devait porter un message très urgent à un roi. Ouais. Je ne me rappelle plus du contenu du message. Soit ils avaient perdu ou gagné une bataille quelque part ailleurs. Donc le gars, il est arrivé en courant et puis il a donné le message et il est venu.
Voilà, c'est ça. Et c'était la bataille de Marathon. C'était une bataille navale contre les... Je ne sais plus, c'était dans les... c'était les guerres médiques, la première guerre médique en 490 avant Jésus-Christ, effectivement. Donc, les Grecs ont remporté la victoire et un messager a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et il s'est effectivement écroulé à l'aéropage d'Athènes en présentant, après avoir dit « Nous avons vaincu ». Pourquoi est-ce que je dis ceci ? Parce que c'est cet homme qui a annoncé finalement une bonne nouvelle. Eh bien, quand on regarde le sens du mot « évangile », qui veut dire lui aussi « bonne nouvelle », on peut considérer que les évangélistes, les quatre, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont des porteurs de bonnes nouvelles. Alors, ce n'est pas la bonne nouvelle d'une victoire militaire, mais c'est la bonne nouvelle de la victoire sur le péché par la foi en Jésus-Christ. Donc, bonne nouvelle. Alors, voilà. Nous disposons de quatre récits qui relatent la vie de Jésus. C'est formidable. On n'en a pas un, pas deux, pas trois, mais quatre. Et ils sont tous différents. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, ils n'ont pas été rédigés pour, dans le but, comme aujourd'hui, on fait des biographies, on essaie que ça soit le plus conforme à la vie et que ça soit fidèle. À cette époque-là, quand on rédigeait des biographies, il y avait un but. C'était pour souligner un aspect particulier de la vie de la personne. Alors, rapidement, on va voir un petit peu sur les quatre évangiles, quelles sont les particularités de chacun. J'ai fait un tableau qui est tout petit, mais je vais le lire, parce que je pense que vous aurez du mal. Ça va ? Dans Matthieu, Jésus est présenté comme le roi promis. Il y a beaucoup de références aux prophéties de l'Ancien Testament. C'est un évangile qui était destiné aux Juifs. C'est pour ça qu'il fait référence à l'Ancien Testament, accomplissement des prophéties. Jésus est l'accomplissement des prophéties. Matthieu était plutôt un enseignant, et dans Matthieu, il y a beaucoup de discours et de paraboles de Jésus, en particulier le serment sur la montagne. Voilà. Et puis, alors j'ai fait dans l'Apocalypse, chapitre 4, versets 6 à 7, vous verrez, il y a quatre êtres vivants, et certains disent que ça représente les quatre évangélistes. Mais effectivement, il y a une certaine concordance avec le contenu, puisque le premier être vivant a une tête de lion. Et lion, c'est évidemment le roi promis. L'évangile de Marc présente Jésus plutôt comme étant un serviteur de Dieu. Il s'adresse à un public italien, romain, et il appuie particulièrement, on va le voir tout à l'heure, Jésus appuyait ses paroles par des actes. Marc est plutôt un conteur, et l'accent particulier est mis sur les miracles et les actes de Jésus. Et l'image qui est prise dans Apocalypse, c'est l'image du bœuf qui est un animal fidèle, qui est un serviteur, qui est là pour rendre service et qui est un fidèle compagnon. L'évangile de Luc, Jésus est présenté plutôt comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu incarné, l'humanité de Jésus. C'est un évangile qui est adressé aux Grecs, et là il est présenté pleinement homme et pleinement Dieu. Luc était médecin, mais il était aussi historien, il a essayé de retracer de façon fidèle. Et puis l'accent particulier est mis sur l'humanité de Jésus. Et l'image dans l'Apocalypse, c'est un être avec une figure d'homme. Et l'évangile de Jean, enfin, qui présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Alors, c'est un évangile qui est plus généraliste, qui est destiné à tout le monde. Il insiste sur le fait que la foi est nécessaire au salut. C'est un théologien. Il s'appuie sur les enseignements de Jésus. Et dans l'Apocalypse, le quatrième être est un aigle, qui symbolise la souveraineté, la roi. On pense à l'aigle royal, fils de Dieu, très rapidement. Alors nous allons plus particulièrement ce matin nous intéresser à l'évangile de Marc. Bien que l'auteur de cet évangile ne soit pas mentionné dans le texte, la tradition est unanime pour dire que le deuxième évangile que nous avons dans la Bible est écrit par Marc. Alors qu'est-ce que vous savez, qui est ce Marc qui a écrit l'évangile ? C'est le disciple de l'apôtre Pierre, ouais, ouais. C'est effectivement... Alors, on le retrouve. Il s'appelait aussi Jean-Marc. Il est mentionné à plusieurs endroits dans le livre des Actes. En particulier, il est parti avec Paul et Barnabas dans la première tournée missionnaire. Et puis, au milieu de la tournée, il est rentré à Jérusalem. Ce qui fait que lors de la deuxième voyage de Paul et Barnabas, Barnabas, il voulait reprendre Marc... Et Paul n'était pas content, il a dit, non, c'est un lâcheur comme ça, on ne va pas le prendre. Donc ils se sont séparés. Et puis, Paul est parti d'un côté, Barnabas de l'autre avec Marc. Et puis après, on ne sait plus grand-chose de Marc. Et il est mentionné plus tard comme étant avec Paul à Rome. Donc plusieurs, il y a plusieurs références. Et puis aussi, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 13, il est écrit que... il est avec Pierre, il est même appelé mon fils, donc on peut penser qu'il s'est converti grâce à Pierre, hein, que c'est un enfant spirituel de Pierre. Et la tradition des pères de l'Église, effectivement, mentionne que Marc a été un des interprètes ou traducteurs de Pierre quand il était à Rome. Donc on peut effectivement supposer... parce que ce n'est pas forcément écrit quelque part de façon précise, mais que Marc a écrit son évangile en s'appuyant sur ce qu'il a entendu de Pierre. Et d'ailleurs, il y a dans l'évangile des détails qui sont mentionnés nulle part ailleurs, qui montrent qu'il a été en contact avec quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Il aurait écrit donc l'évangile de Marc à Rome pour les Romains, en tout cas pour des gens qui habitent l'Italie, et probablement après, juste après la mort de Pierre, donc dans les années 65-66. C'est peut-être un des, sur les quatre évangiles, celui qui a été écrit le plus tôt. Voilà, pour la présentation rapide de Marc. Alors maintenant la structure, je ne sais pas. Marc, c'est le plus court des quatre évangiles. Il fait 16 chapitres, ça sera facile à lire. Maintenant, je vais simplement rappeler le cadre un petit peu chronologique de la vie de Jésus. Donc, on va voir un peu une fresque. La naissance de Jésus se situe dans le cadre de, enfin, au niveau historique, sous l'occupation romaine, qui a commencé en 63 avant Jésus-Christ. La conquête de la Gaule ayant été faite, les enfants, en combien ? Bon, Nicolas. Il va falloir réviser tes dates pour le brevet. Hein. 52, oui, voilà. Ça a commencé en 50, ça s'est fini en 53, un truc comme ça. Donc, Jules César, la conquête de la Gaule. Le premier, donc, c'était à l'époque, il y avait en Palestine un gouverneur, un roi qui s'appelait Hérode le Grand. Donc, tu peux afficher, qui a commencé à régner en moins 37. C'était un roi juif. Alors, il y a eu. Donc, Oui, c'est un roi juif. Donc là, j'ai mis un petit peu les différents empereurs romains. Après, le premier vrai empereur romain, c'est l'empereur Auguste. Ensuite, il y a eu Tibère. Donc Jésus a vécu principalement sous Tibère, le ministère de Jésus. Puis il y a eu Caligula, Claude et Néron, qu'on connaît bien, hélas, parce que c'est lui qui a incendié Rome et qui en a accusé les chrétiens. Voilà, donc début du règne de Hérode le Grand, qui règne sur la Palestine. Ensuite, Jésus qui naît en moins 5, moins 6. Alors c'est vrai que ça peut être surprenant que Jésus soit né 5 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est celui qui a fabriqué le calendrier qu'on a aujourd'hui qui s'est trompé. C'est tout bête. Hein. Il a lancé des comptes, pour placer l'an 0, il s'est trompé. Donc après ça, on s'en est rendu compte, mais le calendrier, il n'a pas bougé. Ensuite, en moins 4, donc, il y a eu la mort d'Hérode. On sait qu'après la naissance de Jésus, ils voulaient faire tuer tous les bébés, etc. Ils ont fui en Égypte, et ensuite Hérode est mort, et Joseph est revenu avec Marie, ensuite retour d'Égypte, en Nazareth. Ensuite, un long laps de temps, vas-y, où on voit donc à peu près en l'an 26 le début du ministère de Jean, Baptiste, puis pratiquement en même temps le début du ministère de Jésus, et enfin, 3 ans plus tard, la mort de Jésus, la résurrection, et puis j'ai mis la date de rédaction de l'évangile un petit peu plus tard, 65-66. Voilà pour le cadre chronologique. Maintenant, au niveau géographique. Donc ça, c'est la carte d'Israël. Nazareth est un village qui est par là. Par là. Il a commencé son ministère, Jésus, dans cette région-là. Je tremble. Dans la Galilée. Vous avez la ville ici, en particulier de Capernaum, qui était son... qui était son QG. C'est Marie-Pierre qui déteint sur moi. Et pendant longtemps, Jésus a été dans cette région, en prêchant, en guérissant. Et puis ensuite, il s'est quelque peu éloigné, et on voit dans l'évangile de Marc, que par exemple, il est allé à Tyr, ici, et à Sidon, ici. Puis ensuite, l'épisode où il chasse des démons qui vont dans des ports, qui se jettent dans la mer, c'est ici, dans ce côté-là du lac, dans la région de la Décapole, qui est aussi mentionnée. Donc plusieurs fois Jésus traverse ce lac en barque. On verra qu'à un moment donné il calme la tempête, à un moment donné il marche sur les eaux, c'est ce lac-là. Et puis, vers la fin de son ministère, il décide de se rendre à Jérusalem, donc en traversant la Samarie. Et c'est donc ici à Jérusalem qu'il sera mort et qu'il enterré et qu'il ressuscitera. Cette structure que je viens de décrire, donc Galilée, les régions un petit peu hors de la Galilée, puis Jérusalem, constitue un découpage aussi dans l'évangile de Marc. Après une introduction assez très, très brève, vous le verrez dans Marc, une introduction très brève, Jésus va débuter son ministère en Galilée, avec comme Capernaum comme base stratégique. Il va prendre ses distances et avec la foule et avec les chefs religieux en se retirant dans les régions périphériques, donc Tyr, Sidon, la Décapole. Et ensuite, il se rendra à Jérusalem où on sait qu'il sera mis à mort. Voilà, c'est en fait l'évangile en 5 parties. Introduction, ministère en Galilée, un petit peu hors de Galilée, à Jérusalem et le dénouement final. Ça, c'est un petit peu le plan du livre. Alors maintenant, je voudrais vous présenter quelques éléments importants qui va vous permettre de vous guider dans la lecture. On voit un équilibre intéressant entre parole et action. On a vu que Marc a insisté sur le fait que Jésus mettait en action ses paroles. Quand il disait quelque chose, quand il dit « je suis le serviteur, je suis venu pour servir », il le montrait. Et un équilibre entre parole et action. C'est un récit qui est sous forme... où l'action se déroule à un rythme rapide, vous le verrez, à la manière d'un roman, et Jésus, il montre que Jésus est un homme qui confirme ses paroles par ses actes, prouvant qu'il était fils de Dieu. Parole et action. Il faut souligner aussi, au début et au milieu, l'importance du ministère de Jean. Jean était là pour préparer la venue de Jésus, comme un messager. Et à l'époque, c'était aussi comme ça quand il y avait un personnage important dans l'Empire romain qui arrivait dans une ville, il y avait un messager qui arrivait devant pour l'annoncer. C'est pas pour rien que Marc aussi mentionne particulièrement le ministère de Jean. Et puis, vous découvrirez l'importance des miracles, surtout dans la première partie. Jésus guérit des aveugles, des boiteux, des lépreux. Jésus ressuscite même une petite fille. Jésus chasse des démons. Jésus calme la tempête, marche sur les eaux, multiplie la nourriture, etc., etc. Une multiplication de miracles. Et ces miracles sont là pour prouver que Jésus est véritablement fils de Dieu et que le but de sa venue est d'être le serviteur de Dieu. Et puis, Vous verrez aussi que très rapidement, dans le ministère de Jésus, on voit la confrontation avec les chefs religieux, l'opposition. Ils se posent des questions, ils ne comprennent pas, et ça va aller jusqu'à à la fin, à sa condamnation et à sa crucifixion. Donc le conflit qui ressort tout le temps au travers de l'Évangile. Et puis vous verrez aussi l'importance du groupe des 12 apôtres, la façon dont il les a choisis, dont il les a envoyés, dont il les a formés. L'Évangile de Marc contient peu de discours, contrairement aux autres, peu de paraboles, il n'y a que quelques paraboles. C'est surtout quand Jésus enseigne, c'est souvent des réponses à des questions posées, soit par les chefs religieux, soit par les apôtres eux-mêmes. Le ministère de Jésus donc évolue au fur et à mesure, je l'ai déjà précisé. Après un ministère qui a été très public, d'enseignement, de miracles, une fois qu'il quitte la Galilée, c'est un ministère qui est plus un ministère d'enseignement vis-à-vis de ses disciples. Et le tournant, c'est quand Pierre confesse Jésus, quand il affirme « Tu es le Messie ». C'est vraiment un tournant dans l'évangile de Marc, ce verset 29 du chapitre 8. Et donc à partir de ce verset-là, on voit que Jésus prépare ses disciples, commence à annoncer qu'il va mourir, et c'est le début vers le début de la passion, le début de ce récit qui va jusqu'à la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Alors il y a deux clés de lecture de l'évangile de Marc. Tout d'abord le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Dès le premier verset qui dit ceci, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. » L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà. Il annonce la couleur dès le premier verset. Que Jésus soit le Fils de Dieu, ça a ensuite été confirmé au moment du baptême de Jésus, par une voix divine descendue du ciel, au moment de la transfiguration, qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Chapitre 1, verset 11. Lors de la transfiguration, chapitre 9, verset 7, aussi, une voix du ciel dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le. Même les démons qui sont chassés par Jésus le confessent comme étant Fils de Dieu. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quand Jésus meurt, que dit le centurion, l'officier romain ? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Du début à la fin, je dirais, ce sont deux mots que l'on retrouve dans le texte de Marc et qui est repris régulièrement. Jésus, Fils de Dieu, le deuxième fil rouge, la deuxième clé, c'est que Jésus est le serviteur. Et le verset clé qui pourrait résumer l'évangile de Marc, c'est au chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus est toujours présenté en action dans l'évangile de Marc, au service des autres. Un Jésus qui va se sacrifier pour sauver. Alors je voudrais souligner aussi qu'il y a dans Marc trois récits qui lui sont propres, c'est-à-dire qui ne sont pas mentionnés dans les autres évangiles. Et c'est intéressant peut-être de les lire particulièrement, parce que si Marc les mentionne, c'est parce qu'ils ont un sens précis. Alors je ne sais pas si vous prenez des notes, alors si vous ne prenez pas de notes, ça va être difficile de retenir. Mais c'est au chapitre 4, versets 26 et 29, c'est la parabole de la semence qui se développe. Il parle de la parabole des quatre terrains, et après cette parabole, il mentionne une autre parabole de la semence qui est semée et qui grandit. Et puis il y a ensuite deux guérisons, une au chapitre 7, versets 32 à 37, la guérison d'un sourd qui a de la peine à parler, et au chapitre 8, versets 22 à 26, la guérison d'un aveugle à Bethsaïda, qui est une ville qui est juste au nord du lac de Génézareth. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je veux pas qu'on va pas les étudier ce matin. Mais je voudrais vous terminer en citant quelques versets qui m'ont frappé dans ma lecture de Marc. Quelqu'un qui cherchait à être guéri a dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Quelqu'un qui fait appel à Jésus. Alors ça concernait, c'était un lépreux, il avait besoin d'être guéri dans son corps. Et cette prière, on peut la prendre aussi au niveau spirituel par rapport au péché qui peut nous salir. Et on a besoin d'être purifié. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. À une autre personne, il dira, il affirmera, tes péchés te sont pardonnés. Une belle affirmation. Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Jésus était vraiment fils de Dieu. Jésus affirme, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Nous avons besoin de nous reconnaître comme étant pécheurs devant Dieu. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Les pharisiens faisaient des remarques à Jésus comme quoi ses disciples ne lavaient pas les mains quand ils mangeaient. Jésus affirme, qu'est-ce qui souille l'homme, ce n'est pas la nourriture, c'est ce qui sort du cœur, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Face au miracle de Jésus, quelqu'un a dit ceci, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Pierre a dit, tu es le Messie. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qui peut être sauvé aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Cette question de Jésus à un homme qui rencontrait, que veux-tu que je fasse pour toi ? Jésus nous pose aussi cette même question, que veux-tu ? Que je fasse pour toi. Et puis, cette parole du centenier, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il existe une pièce de théâtre qui s'appelle Marc, l'expérience. C'est une mise en scène de l'évangile de Marc. Alors, Benoît, lui, il fait la mise en scène de l'évangile de Jean. Là, c'est l'évangile de Marc. Et le sous-titre de cette pièce de théâtre, c'est « Comment l'évangile peut vous aider à mieux connaître Jésus. » Si nous sommes invités à relire l'évangile de Marc ce mois-ci, c'est pour mieux connaître Jésus. C'est pour, comme le dit le titre de cette pièce de théâtre, expérimenter qui est Jésus, ce qu'il veut faire pour nous dans nos vies, ce qu'il a fait, et ce qu'il veut faire pour nous. Alors j'espère que durant ces semaines qui précèdent Pâques, nous pourrons redécouvrir la vie de Jésus, ce mouvement vers la passion. Au travers de cet évangile de Marc qui insiste à la fois sur la puissance de Christ, au travers de tous les miracles qu'il a accomplis, et aussi sur son attitude de serviteur. Et nous, aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, nous disposons de la même puissance de service. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Christ et à servir comme lui-même l'a fait. Et parce que Christ agit en nous, parce que Christ est présent en nous, nous avons aussi la même puissance. Voilà, j'espère que cette lecture de Marc va vous encourager, il va vous fortifier dans votre foi. Et puis on se donne rendez-vous le 8 mai pour partager toutes les découvertes que nous aurons faites dans cet évangile.